Frères et sœurs, depuis plusieurs dimanches, la liturgie nous propose d'entendre des débats qui opposent Jésus et les autorités religieuses. Nous sommes au chapitre 22 de Matthieu, et à ce stade de l'Évangile, ces autorités religieuses juives ont décidé d'arrêter Jésus et de le supprimer. Une seule chose les en empêche. Jésus est soutenu par la ferveur des foules qui le prennent pour un prophète. Voilà, à la fin du chapitre 21, juste avant l'Évangile, on peut lire « Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules, parce qu'elles le tenaient pour un prophète. » Si ces autorités veulent éliminer Jésus, elles doivent d'une part le discréditer en tant qu'enseignant auprès des foules, et d'autre part le présenter aux autorités romaines comme un opposant. Alors, dans l'Évangile de ce dimanche, pour arriver à leur fin, les pharisiens tendent un piège presque parfait à Jésus. Tout d'abord, les pharisiens ne s'adressent pas eux-mêmes directement au Seigneur, car Jésus les connaît et il sait bien qu'ils veulent le supprimer. Ils envoient leurs disciples, c'est-à-dire qu'ils recourent à des visages inconnus du Seigneur. Et les pharisiens espèrent que Jésus sera moins méfiant et qu'il tombera ainsi dans leur piège. C'est une stratégie bien connue. Dans le monde du travail, quand les salariés veulent faire remonter un problème à leur patron, ils choisissent en général d'envoyer quelqu'un qui a une bonne relation avec lui, quelqu'un qui ne s'est encore jamais plaint. Ici, la stratégie des pharisiens est donc un peu la même. Ils commencent par flatter Jésus, espérant donc le faire tomber. Et puis, la question fatidique tombe. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César l'empereur? Si Jésus exprime une réticence par rapport à l'impôt, eh bien ses adversaires pourront alors le faire accuser devant les autorités romaines en disant que Jésus incite les Juifs à ne pas payer l'impôt, qu'il est l'un de ces zélotes prêts à recourir à la force. Au contraire, si la réponse de Jésus est positive, il risque d'être discrédité auprès du peuple qui souffre sous le poids de l'impôt. Le peuple cesserait alors de le protéger. Jésus est dans l'impasse. Il reconnaît d'abord la méchanceté, l'hypocrisie de ses adversaires. Jésus leur demande donc de lui montrer cette monnaie, cette pièce de l'impôt. Jésus révèle ainsi publiquement leur hypocrisie et leur intention mauvaise, car ces disciples de pharisiens possèdent eux-mêmes ces pièces qui servent à l'impôt. Ils n'ont pas seulement des pièces qui servent à l'impôt du temple, mais ils ont aussi ces pièces à l'effigie de César qui servent à l'impôt. Alors les disciples des pharisiens ne l'ont pas abordé pour clarifier une situation, mais bien pour le tenter, pour le faire tomber. Et Jésus ne rentre pas dans leur piège. Et comme à son habitude, il nous force à faire un pas de côté. Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. En disant cela, Jésus suggère ainsi que nous nous préoccupons peut-être davantage de César que de Dieu. Sommes-nous assez redevables avec Dieu ? Rappelons-nous la parabole des vignerons homicides qui ne veulent pas remettre le produit de la vigne au maître. Et pour nous, aujourd'hui, que pourrait signifier rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu? Il me semble que les autres lectures de ce jour peuvent nous donner une idée de nos obligations en tant que bénéficiaires et membres de l'Alliance avec le Seigneur. La première lecture est un extrait du prophète Isaïe, au chapitre 45. Ce prophète est actif autour de la fin de l'exil à Babylone, au moment où l'empire perse dirigé par Cyrus monte en puissance et est en train de devenir le maître de tout le Proche-Orient. Son empire s'étend de l'Iran jusqu'à Jérusalem. Alors même si Cyrus est païen, qu'il ne connaît pas le Seigneur, eh bien, Dieu l'a choisi pour faire sa volonté, c'est-à-dire libérer le peuple d'Israël exilé. Le prophète Isaïe, en reconnaissant que c'est le roi Cyrus qui permet concrètement aux exilés d'Israël de rentrer en terre promise, eh bien, rend à César ce qui est à César. Isaïe reconnaît la puissance et la bienveillance de ce roi Cyrus. Mais attention, Isaïe souligne bien qu'à travers Cyrus, c'est en réalité Dieu qui agit. Cyrus n'est finalement qu'un instrument du Seigneur. Ce n'est donc pas Cyrus, mais le Seigneur qu'il faut adorer. Et le psaume que nous avons entendu tout à l'heure nous y invitait. Le Seigneur est loué pour sa gloire et sa puissance. Et le psalmiste nous dit « Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis, adorez le Seigneur éblouissant de sainteté. » Oui, comme dans la première lecture, nous sommes invités à rendre à Dieu ce culte d'adoration. Et dans la deuxième lecture, saint Paul et ses collaborateurs rendent grâce à Dieu au sujet des croyants de Thessalonique, en se souvenant de leur foi active, de leur espérance et de leur charité. Pour Paul, il n'est pas question de fausse modestie. Ils ont conscience du rôle essentiel qu'ils ont joué dans l'annonce de l'Évangile à Thessalonique. Et leur mission a produit beaucoup de fruits. Cependant, ils ont aussi l'humilité de reconnaître que tous ces fruits ne viennent pas d'eux, mais du Seigneur. Nous l'avons entendu. Nous le savons, frère bien-aimé de Dieu, vous avez été choisi par lui. En effet, notre annonce de l'Évangile n'a pas été chez vous simple parole, mais puissance, action de l'Esprit Saint, pleine certitude. Oui, Paul et ses collaborateurs reconnaissent l'action de Dieu dans leur ministère apostolique. Ils savent bien que sans le soutien de l'Esprit Saint, la mission à Thessalonique aurait été un échec. Oui, en rendant grâce, c'est-à-dire en exprimant à Dieu leur reconnaissance et en partageant avec lui leur joie. Ainsi, Paul et ses compagnons rendent à Dieu ce qui lui revient, le mérite, pour ainsi dire, du succès de leur prédication à Thessalonique. En résumé, rendre à Dieu ce qui est à Dieu implique de reprendre conscience que Dieu est non seulement maître des événements de l'histoire, mais qu'il agit aussi dans notre vie. Dans notre vie, depuis le baptême, depuis que le Seigneur a fait de nous des prêtres, des prophètes et des rois. Oui, nous sommes prêtres quand nous offrons un culte à Dieu qui exprime notre foi. Nous sommes prophètes quand nous devenons missionnaires de l'espérance. Et nous sommes rois, pas des monarques tout-puissants, mais des rois, quand nous nous mettons au service de nos frères, que le Seigneur met sur notre route. Alors, chers amis, chers frères et sœurs, prenons un moment de silence avant la suite de cette Eucharistie, qui veut dire action de grâce. Oui, prenons un temps pour lui rendre ce qu'on lui doit, toute notre vie marquée par cette foi, cette espérance, cette charité, toute notre vie, car nous sommes à l'image et à sa ressemblance. Amen.